Bonjour, c'est Une vie, une œuvre. L'été d'Une vie, une œuvre sonne comme un anniversaire. 1969-2019, que se passait-il il y a 50 ans? Arpentons ensemble le temps de notre grille d'été, cette année-là. L'été d'Une vie, une œuvre est presque terminé. Nous avons passé 8 semaines sur les sonorités de l'année 69. Nous avons relu Monique Wittig et Louis Aragon, revu les films de Stanley Kubrick et d'Eric Rohmer, et filé aux USA pour terminer avec le festival de Woodstock. Fin août 1969, le journal du Vatican écrivait « Obscène et inaudible » au sujet du 10e album de Serge Gainsbourg, alternant des chansons interprétées par Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Il contient un unique duo, « Je t'aime, moi non plus », et un titre chanté par Gainsbourg, mais dont Birkin entonne le refrain « 69, année érotique ». Le couple va faire entrer 69 dans la légende. Dans la foulée de mai 68, Jane et Serge balaient les cendres d'une morale bourgeoise à bout de souffle. Ils transgressent en toute innocence, elle en mini-robe, lui en jean et chemise mauve, sauce sexy. Le disque « Je t'aime moi non plus » sera censuré par la BBC, interdit en Espagne, en Italie, au Brésil et en Suède, et devint un succès mondial. Les ados se ruent sur le 45 tours estampillé « Interdit au moins de 18 ans ». Pour l'heure, ruons-nous, grâce à Victor Massé de Lépiné et Gilles Davidas, à l'écoute d'Une vie, une œuvre, Serge Gainsbourg.
Reprenons maintenant le cours normal de notre émission en compagnie de Serge Gainsbourg, qui, vous le savez, est le nouveau grand nom de la chanson. Gainsbourg, qui ne parle pas plus que Georges Brassens à ses débuts ou que Marcel Aimé à son apogée, ce qui n'est pas peu dire, écrit et chante des chansons noires et fortes qui font dresser les cheveux sur la tête des censeurs.
C'est un homme tableau, c'est un homme totem.
Certainement, j'ai dû mettre un masque qui me colle tellement à la peau que j'arrive plus à le retirer, mais tel est mon destin.
Gainsbourg, c'est un homme de spectacle, donc quand il accorde une interview, il le fait comme un homme de spectacle, il donne un spectacle.
Pourquoi Gainsbourg est aussi glorieux avec des albums aussi piteux? Et pourquoi des chansons comme La Javanaise ou Couleur Café n'ont absolument aucun succès au moment où il les enregistre?
C'est un problème qui arrive à tous les artistes, à savoir que c'est quand ils en bavent le plus que le public jouit le plus.
Le dernier souvenir, Serge Gainsbourg.
Les mots sont usés jusqu'à la corde. On voit l'ennui au travers et l'ombre des années mortes hante le vocabulaire. Par la main, emmène-moi hors des lieux communs et ôte-moi de l'idée que tu ne peux t'exprimer que par des clichés. Vienne à Vienne, tu ne parlais pas, simplement tu prenais mon bras et tu voyais à mon sourire qu'il n'était rien besoin de dire. Les mots d'esprit laissent incrédule, car le cœur est trop animal. Mieux qu'apostrophe et point virgule, il a compris le point.
Si on veut parler des mots, si on veut parler de l'écriture de Gainsbourg, je pense que tout est lié,
Patrice Delbourg,
à cette première vocation qui a été brisée, qui a été atomisée, on ne sait pourquoi, puisqu'il a brûlé toutes ses toiles, enfin, bon, il y en a quelques-unes qui, paraît-il, ont ressurgi, mais enfin bon. Gainsbourg arrive à la chanson à 30 ans, avec son album préfacé par Boris Vian, Les poissons dans les lilas, etc., Du sang à la une. Il a 30 ans, 29 ans, il a derrière lui une autre carrière. Et c'est le seul chanteur qui est dans ce cas-là, qui a derrière lui une autre vie. Donc toute l'écriture de Gainsbourg, tous les mots de Gainsbourg sont en creux, par rapport à cette douleur entêtante, cette douleur vraiment qui l'a broyé. Enfin, moi, c'est quelque chose sur lequel il n'a jamais abdiqué. Pourquoi Gainsbourg n'a pas été peintre, il a été chanteur.
Gainsbourg a une position à la fois absolue et contingente sur la chanson.
Bertrand Dical.
La position absolue, c'est qu'il pense que c'est un art mineur. De toute façon, il pense que c'est un art mineur parce que c'est comme ça aussi qu'on l'a élevé. Son père est un excellent pianiste classique. Il a une vraie culture classique. Ensemble, le petit Lucien Gainsbourg et son papa Joseph Gainsbourg vont voir des grands concerts, vont au théâtre des Champs-Élysées entendre Joseph Cortot, le plus grand pianiste du siècle. Ils ont cette passion pour la musique classique, pour la grande musique, pour la vraie, pour la seule, pour l'unique musique. Et en ça, Gainsbourg répète ce que dit son père et certainement son grand-père avant lui, et ainsi de suite, une vraie passion pour la musique classique. Quand je dis qu'il a une vision très contingente de la chanson, c'est que Gainsbourg s'inscrit dans une époque dans laquelle, précisément, la chanson est réévaluée par un certain nombre d'interprètes qui disent « nous faisons de la chanson d'art, la chanson a une noblesse, la chanson, en épousant les mots des poètes, s'élève au même rang que la poésie et que la littérature. » Et d'ailleurs, il vient de ce milieu-là. Le premier patron de Gainsbourg, c'est Michel Arnaud. Michel Arnaud, on l'appelle l'intellectuel de la chanson, et c'est vrai, elle est diplômée de Sciences Po. Elle est diplômée de Sciences Po comme Léo Ferré. À cette même époque, nous avons Brassens, dont tout le monde se rend bien compte que c'est un lettré, même s'il emploie des gros mots dans ses chansons. Tout le monde sait bien que c'est un puits de science en matière de poésie et de littérature. Donc, il y a à cette époque-là un vrai combat entre une chanson qui se revendique comme un art noble, et le reste du monde. Et Gainsbourg prend une tierce voie. Il va dire, comme les réactionnaires, la seule musique qui vaille, c'est la musique classique. La chanson n'est qu'un art mineur et la chanson n'a aucune valeur. Et il va faire exactement comme les modernes, comme une partie des modernes, c'est dire et surtout faire de la chanson. Donc, il y a plein de raisons qui se liguent pour faire que Gainsbourg va endosser ce costume de l'artiste de chanson qui méprise la chanson. Et ça lui va très bien.
Bon, eh bien, nous avons une double visite artistique ce matin, c'est celle de Michel Arnaud et de Serge Gainsbourg. Michel Arnaud va commencer un nouveau tour de chant à Bobino à partir de jeudi soir, c'est bien ça, Michel?
Oui, jeudi soir.
Et vous chanterez quelles œuvres?
Je vais chanter des œuvres, évidemment de Gainsbourg, puisqu'il est là.
Bien sûr.
Et puis de Roger Riffard, de Guy Béard, enfin, ce que l'on peut appeler la jeune vague, si vous voulez, de la chanson.
Oui, la jeune vague, mais la bonne. La bonne, ça. N'est-ce pas? Parce qu'il y a la vague pseudo-intellectuelle, celle-là, nous la laisserons où elle est, dans son message. Mais tout d'abord, voici Serge Gainsbourg, qui, lui, a composé une chanson assez étrange, qui s'appelle, je crois, le chat-chat-chat des chauves.
C'est ça, oui.
Pourquoi un chat-chat-chat pour les chauves?
C'est un rythme qu'aime bien Serge Gainsbourg, oui, je crois. Hein? Vous composez beaucoup
ironique.
De... Oui, c'est ça.
Eh bien, écoutez, est-ce que vous voudriez nous donner un échantillon du cha-cha-cha des chauves? Gainsbourg se met au piano.
C'est très difficile parce qu'il ne m'accompagne jamais.
Essayez,
alors,
Michel.
Alors, ne savons pas dans quel ton d'allant le faire. On va juste,
oh, c'est
juste
pas
un
vrai
tout petit morceau. Hein. Bien.
Qui pourrait se douter qu'un chauve échauve sous son chapeau mou? C'est bien le chapeau qui le sauve et qui le rend tout comme nous.
Oui, c'est très gentil. Hein.
Oui, c'est
un
charmant.
Canular, un tcha-tcha canular.
Oui, c'est bon, joué à
un
chauve qui peut.
Maintenant, je crois qu'encore c'est un mot avec Gainsbourg. Gainsbourg, je crois que vous faites beaucoup de musique de film en ce moment.
Beaucoup. J'en suis à mon deuxième.
Oui.
Mais il y a quelque chose de plus drôle, c'est que je suis en train d'essayer la toge et le peplum.
Ah. Quel rôle?
Un rôle d'un mauvais garçon, bien sûr.
10 esclaves ont été exécutés, ministre. Ils ont préféré mourir plutôt que de parler.
Peut-être ne savaient-ils rien. Mais nous, nous savons que c'est Hercule le responsable et que les esclaves libérés iront grossir le rang des rebelles.
Alors, quand passerons-nous à l'action?
Bientôt. Plus tôt que vous l'imaginez, nous attaquerons. Après la plaine d'Aristéa, passé le défilé du Faucon, il y a des grottes qui bordent le fleuve Xanos.
T'avais les mains comme des raquettes, pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui.
ils s'aiment pas beaucoup, Léo Ferré et lui. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils se connaissent depuis Saint-Germain-des-Prés. À l'époque où Léo Ferré était un tout jeune chanteur et où Gainsbourg n'était pas encore un chanteur, Gainsbourg a pas du tout apprécié ce que dit Léo Ferré dans Pépé. La seule chose, c'est que si Léo Ferré y voit quelque chose, espèce de vision zoomorphe de Gainsbourg, cette espèce de zoomorphisme pour Gainsbourg est un renvoi aux caricatures de l'occupation. C'est un renvoi à cette espèce de stigmatisation physique du juif.
Et en plus, quand il a eu 14 ans...
Marie-Dominique Lelièvre.
...ont été placardées dans toute la France des affiches de propagande antisémite. Et il y avait une bande dessinée qui s'appelait Youpino. Et il y avait une photo géante de ce qu'était censé être le juif à reconnaître partout. Et il se trouve que cette caricature avait des grandes oreilles décollées, les mêmes que lui, et aussi un nez assez, assez fort. Et donc, il s'est retrouvé complètement caricaturé avec ça.
Et voilà cette horrible trinité qui me faisait peur, froid dans le dos. Mais j'ai le square, j'étais un petit garçon très sage, tout à fait innocent. Et... Oh, les bancs doivent être d'époque. Hein. Ça, j'ai vu s'asseoir les Allemands en uniforme. Ah bah voilà le coin du sable pour les enfants. J'ai dû venir ici avec ma mère. Après, elle me lâchait. J'étais plus grand, mais c'est certainement ici que j'ai fait les pâtés. Il y a deux pâtés. Un peu à moi. Étonnant. Étonnant. De moi-même, je suis revenu ici. Voilà, il y a des gamins qui jouent au ballon, comme moi, à l'époque. Bon, c'est trop triste. Trop triste. En fait, je vois l'ombre d'un petit garçon qui n'est plus moi-même. Il est mort. Et puis il y a aussi les Allemands. Enfin, j'ai passé par ici. Moi j'avais une étoile de shérif sur le cœur. Étoile jaune. Tout ça c'est vraiment... Il vaut mieux oublier. Oublions, oublions.
Puis au fil des années, il a eu du succès avec les femmes et cette laideur est devenue une espèce de charme masculin très fort. Enfin, et on lui avait dit, mais comment expliquez-vous votre succès auprès des femmes? Il avait eu cette réponse assez cynique, il avait dit, parce qu'elles aiment avoir peur.
Gréco Gainsbourg, comment se passe la rencontre? Comment se passe la chanson? Comment...
Vous n'osez pas dire la liaison, hein?
Oh, ça ne me regarde pas, ça.
Mais moi non plus.
Hein?
Moi non plus. On l'écoute alors, quelle chanson?
J'ai oublié, moi. Je suis amnésique. Comment ça s'appelle?
Gréco, ah, Juliette bon. Gréco. Vous avez des grands cheveux noirs.
Ah oui.
Et un nez comme vous au début, mais elle a changé depuis. On écoute quoi?
On va écouter Accordéon. Elle l'a chanté à au voyage inaugural du France.
Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon. C'est l'accordéon. Qui sait-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre? C'est-il ou c'est moi, Menon? C'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon.
il est dans cette situation qui devient de plus en plus évidente, que Serge Gainsbourg sait que Serge Gainsbourg ne vend pas, que Serge Gainsbourg ne séduit pas. Et Serge Gainsbourg est le premier à le savoir. Donc, c'est non seulement une question de carrière, mais c'est une vraie question existentielle. C'est une vraie douleur, c'est une vraie souffrance et c'est un vrai doute. C'est-à-dire que ça va colorer toutes ses décisions de carrière, tous ses choix qu'il va faire pour lui comme pour d'autres. Aujourd'hui, on se dit rétrospectivement, mais c'est quand même incroyable, il donne la javanaise à Juliette Gréco et c'est pas un succès. Ben oui, il donne la javanaise à Juliette Gréco. Il donne des chansons extraordinaires à d'autres interprètes. Parce que là, ça marche. Parce que quand Juliette Gréco va enregistrer Accordéon, ça va être un petit succès de Juliette Gréco, mais ça va être un assez gros chèque pour Serge Gainsbourg. Il se rend compte qu'il y a une étrangeté, une singularité, une espèce de déviance dans le rapport de Gainsbourg au succès.
Prenez un garçon de 30 ans, doué pour la peinture, la musique, la chanson, enfin doué pour la vie, quoi. Mettez-le dans une pièce avec un piano et un stylo. Laissez-le tourner, chercher, laissez-le brûler, laissez-le faire. Faire son trou, son petit trou qui deviendra grand dans le monde de la chanson. Et puis quand vous l'aurez laissé chanter, laissez frémir, laissez brûler devant vous, vous le ferez revenir, Serge Gainsbourg.
Si le public vous aime bien, vous n'avez pas une excellente réputation. On dit, oh comme ce garçon est triste, oh comme il a l'air méchant. Quand on le voit à la télévision, jamais un sourire, jamais rien. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air de ne pas aimer chanter, de faire cela comme si c'était les travaux forcés, biribi, ce que je sais, moi, encore.
Biribi. Je ne suis pas vrai, ça. C'est-à-dire que c'est une nature. Ça. Je suis pas un expansif, mais je ne suis pas pour ça triste.
Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que vous faites de la chanson fantaisiste, ni même de la chanson gay, ni même de la chanson optimiste. Ni même réaliste, c'est beaucoup plus réaliste, c'est très noir.
Oh, pas toujours, toujours. C'est un peu désabusé.
Alors c'est vous, vos chansons?
Ah oui, toujours à peu près autobiographique.
Alors pourquoi êtes-vous désabusé?
Oh ben, c'est parce que je suis un désabusé sentimental.
Alors expliquez-nous un peu, comment?
Ah ben ça c'est la vie privée.
C'est la vie privée?
Ce sont des défaites, des échecs sentimentaux.
Et vous traduisez tout cela en chanson?
Ben oui, parce que la chanson, au fond, c'est...
Ce sont des échecs anciens, déjà, et récents.
Et récents, et présents.
J'ai entendu dire que la chanson représentait pour vous le beefsteak. Et que vous avez, en qualité d'artiste, d'autres espoirs, d'autres goûts. On a dit que peut-être vous préféreriez la peinture à la musique.
Mais c'est vrai, c'est pas peut-être, c'est la vérité.
Pourquoi? Vous abandonneriez un jour la chanson?
Oui, parce que dans le domaine de la peinture, que j'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années, eh bien, il n'y a pas de concession. Il n'y a pas besoin de contact.
Vous donc, voulez dire par là qu'il y a des concessions à faire en ce qui concerne la chanson oui. Plus particulièrement?
Oui, la chanson, oui.
Mais je n'ai pas l'impression que vous faites des concessions.
Mais vous n'avez pas l'impression, et personne n'a l'impression, et moi, dans mon fort intérieur, je sais que j'en fais énormément.
Nous avons devant nous votre disque qui vient de sortir, ce 25 cm. J'y lis les titres. Eh bien, à part peut-être Requiem pour un Twister, qui est un peu une position à la mode actuelle, ça n'est pas sérieux. Non. Mais parmi les autres titres, Black Trombone, ça n'est pas une concession?
Non, ça n'est pas une concession.
Black trombone, monotone. Il y avait quelque chose. Les mots, les syllabes tombaient juste ce qu'il fallait. Black trombone, automne. Monotone. C'était ce qu'il fallait faire et rien d'autre. C'était ça et rien d'autre. Et pour moi, la chanson, ça a été black trombone pendant des années. C'était ça. Et rien. Comme l'échafaud qui tombe sur la nuque de Robespierre, c'était ça et basta.
Bla.
chaque trombone monotone. Le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone et baïonne.
Black trombone, on a la canne de Jade au puissance 10, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il prend Brel et Brassens et il le réduit comme façon Givaro, quoi. C'est-à-dire c'est de l'extrait, c'est du nectar, c'est du jus de citron, Gainsbourg. C'est bon. Il parle peut-être de la même chose, de la douleur d'être à deux, de l'amour absolu, il parle de la même chose. Mais Gainsbourg en fait une ligne. Moi, je reviens toujours à trombone. Regardez les quatre lignes de trombone. Trombone, automne, Bayonne, mon ennui. C'est ça. Alors que Brassens ou Brel en font un quatrain ou en font une sorte d'épopée. C'est ça. Donc Gainsbourg est déjà dans un mode minimaliste qui est proche de Beckett, d'Audiberti, de Ionesco. Il est déjà dans l'absurde, il est déjà dans le mot rare, le mot très rare. D'ailleurs, dans certaines de ses chansons, il n'utilise que des mots rares, des mots avec des consonances un petit peu comme Mallarmé avec le sonnet en X. Lui fait des chansons avec des rimes en ac, en us, etc., en nice, enfin, il s'amuse, il rigole, il essaye de montrer qu'il n'est pas dupe de ses sentiments. Mais pendant ce temps-là, il fait des chansons, il fait de l'art, et puis comme il le dit, il fait du pognon.
Je te résiste, tu sais pourquoi, je sais bien ce que je risque, seul avec toi, pourtant j'irai chez toi, puisque c'est comme ça, rien que pour casser tes disques.
De quoi parlent ces chansons et de quoi parlent ces disques? À savoir qu'il y a tout un univers obsessionnellement pédophile.
Pas comme tellement.
Il faut être prudent avec ce genre de mots. Enfin, disons que c'est d'éternelles variations sur le vieux monsieur et la petite fille. Et donc, du coup, quand on entend quelque chose comme « la chanson est un art mineur », ça veut dire « la chanson est le seul art que je suis supposé séduire ». Et donc, comme dans tout le corpus discographique de Gainsbourg, le processus de séduction s'opère à partir du moment où on infantilise la personne que le locuteur essaie de séduire. Donc du coup, il faut le comprendre comme ça aussi.
Il y a quelque chose quand même chez Gainsbourg qui est de l'ordre de la revanche.
Patrice Delbourg.
Dans toute sa carrière. Mais une revanche affectueuse, une revanche qui peut être extrêmement jacobine, républicaine, etc. Mais il y a une revanche sur le fait qu'il en a chié quand il était jeune. Les filles, quand il allait dans des surprise parties, ne le regardaient pas, etc. Donc, il a pris à sa manière une forme de revanche. Donc, il y avait quand même quelque chose. Là, j'ai peut-être été violent. Mais à un moment donné, je crois qu'il y a eu un rapport presque fellatoire. Tout le monde voulait avoir du Gainsbourg en bouche.
Et puis, parce que là, je voulais en venir à Michel Mercier.
Merci beaucoup. On en passe un petit bout.
Ma robe de métalleur. Oui, c'est elle qui fait. À chaque mouvement que je fais. Quand tu l'entendras plus. Quand elle se sera tue. C'est que je n'aurai plus. Ma petite robe en alu.
On a l'impression que le texte perd de son importance dans vos chansons par rapport à la musique.
Bah, le texte est plus schématique, dirons-nous. Bah oui, j'en ai marre de me casser la tête à élaborer des textes qui passent inaperçus. J'ai des cheveux blancs, j'ai 38 ans, cheveux blancs. Maintenant, je veux pas. Pour la peinture, je veux bien être incompris, mais pas pour la chanson. Parce que tout ça, ça se retrouve.
Vous croyez que vos textes sont passés inaperçus?
Non, ils sont pas bof. Sur mes 33 tours, si, ils sont passés inaperçus. Il y a une ou deux chansons qui ont marché, et puis tout le reste, les plus jolies, celles que j'aime, ne marchent pas. Elles n'ont jamais marché.
Jamais?
Mais lesquelles aimiez-vous?
J'aimais l'alcool, j'aimais ces petits riens, j'aimais la javanaise qu'on n'a pas compris. J'aimais ce mortel ennui. Mais tout ça, c'est pas possible. Puis c'est prétentieux de dire que je travaille pour une minorité. Parce que minorité, on pense à élite, puis c'est pas vrai tout ça. Il faut travailler pour une majorité dans la chanson.
Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Le voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moi, t'es fou.
C'est évident que quand Gainsbourg, après 5-6 années d'échec personnel absolu dans sa carrière,
Bertrand Dical,
se retrouve à écrire en une après-midi des chansons qui vont lui rapporter plus que l'intégralité de toute sa carrière, il est évident qu'il se pose des questions. Il se pose des questions sur la valeur de ce qu'il écrit, sur la valeur de sa carrière, sur la valeur de sa voix, d'autant plus que il était parti dans la chanson parce qu'il pensait que ça allait rapporter du pognon facilement. Et il faut attendre, grosso modo 65, l'Eurovision, poupée de cire, poupée de son, pour qu'il réalise que ça peut vraiment rapporter beaucoup de pognon. Beaucoup de pognon et très facilement. Mais en même temps... En même temps, il se pose des vraies questions quand il va poser pour la fameuse photo du numéro 47 de Salut les copains. C'est lui le plus vieux sur la photo. Il y a tout le monde autour de lui. Il y a toute une génération. Il y a Johnny, il y a Françoise Hardy, il y a les surfs. Il y a tout un tas de gens. C'est lui le plus vieux. C'est lui le plus vieux et de beaucoup. Il est né en 28. Il approche des 40 ans. C'est un croulant. Ces années-là, Gainsbourg navigue vraiment à la godille. Il sait pas où il va. Il n'a pas de plan à long terme. Il en est incapable. Il n'a pas de visibilité. Et c'est aussi ce qui explique ces virages successifs. C'est pas des virages successifs.
C'est avoir une conception extrêmement pauvre de l'activité artistique que de penser des métamorphoses qu'elles sont des retournements de veste. Retournement de veste, c'est quand quelqu'un essaye de se caler par rapport à l'époque en y perdant toute sa force, toute son âme, en essayant de grappiller vaguement quelques sous... par rapport à quelque chose qui se fait. Lorsqu'il s'agit de surenchérir sur ce qu'une époque a apporté en termes de moyens matériels d'expression, c'est pas l'artiste qui retourne sa veste, c'est l'époque qui est retournée par l'artiste.
Le temps des yo-yo est désaccordé. J'ai mis mon pain au temps des yé-yé. Le temps des yo-yo, c'était l'andante. C'est l'andantino, le temps des yé-yé. S'il me faut taire ma mélancolie, pourquoi en faire une maladie? Le temps des yo-yo, tour
s'effeuillait. Voici au verso le temps des yéyés.
Marie-Dominique Lelièvre.
Sa formation est celle du pianiste de bar. Le pianiste de bar, c'est un homme qui doit pouvoir retenir très très rapidement tous les morceaux que le public aime, parce qu'on risque de les lui demander à un moment ou à un autre. Il joue à la demande, donc il lui faut une oreille très exercée. Et je pense que c'était quelque chose de très développé chez lui, si bien que quand de nouvelles musiques arrivent, non seulement il peut les réinterpréter très rapidement, mais très vite, quand lui-même a composé, il pouvait utiliser des bribes de ce qu'il avait entendu. Il a une manière de métaboliser la musique qui est extrêmement rapide et dans l'esprit du pianiste de Bach, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui doit pouvoir faire plaisir très très vite au public et qui a en face de lui un public qui réagit à la demande. Ça crée une très grande sensibilité, enfin en tout cas ça aiguise la sensibilité. Il a un sens esthétique poussé. C'était pas du tout quelqu'un de grossier, donc il s'est toujours entouré de gens de très grande qualité et réuni autour de lui, ça fabrique une alchimie qui est l'alchimie d'un moment. Et cette alchimie, elle nous touche à un moment donné, parce qu'en plus il a récupéré dans tout ça l'air du temps. C'est ça qui crée la magie d'une chanson de variété.
Son outil majeur, ça a été la perversion. Mais c'est pas donné à tout le monde hein, d'arriver. En fait, c'est pas être pervers en tant qu'homme, c'est arriver à créer une esthétique de la perversion. C'est quelque chose qui suppose toujours à ce moment-là d'avoir beaucoup de sous-textes ou beaucoup de hors-champs. Et quand on arrive à créer dans une œuvre d'art suffisamment de sous-textes ou de hors-champs, on arrive à transformer quelque chose qui serait de l'ordre de l'anecdote en une énigme. Je défie qui que ce soit de me trouver le caractère énigmatique des chansons de Balavoine ou de Goldman ou de je sais pas quel autre zozo. Mais lorsqu'on écoute une chanson de Gainsbourg, il y a toujours quelque chose qui pose problème. De quoi est-ce que ça parle exactement? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Est-ce que vous avez un exemple en tête?
Des exemples, il y en a des très fameux, mais même une chanson tardive comme Lemon Incest garde du sous-texte. Une des plus caractéristiques, en fait, ce serait Initial Bébé. Initial Bébé, on a toute une armada de petits traits énigmatiques qui compose un portrait dont on n'arrive pas en fait à saisir s'il s'agit du portrait d'une femme, du portrait d'une relation ou du portrait d'un symbole.
Alors, il y a un truc dont personne ne s'est aperçu, c'est que j'ai piqué la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak.
Oh, bah fallait pas le dire. Sciemment ou inconsciemment?
Sciemment. Mais je touche quand même.
Je trouve que l'écriture d'Initial Bébé, par exemple, est vraiment un archétype de ce qu'il peut faire de très beau, parce qu'il utilise à la fois des réminiscences de poésie baudelairienne, il l'offre à une femme très belle, il ajoute là-dessus des réminiscences musicales, et cet ensemble de choses donne cette chanson qui évoque superbement Brigitte Bardot. Il y a cette faculté chez lui de créer avec plein de choses éparses des petits bijoux de musique pop.
Et la valeur poétique du détournement, c'est faire apparaître, on va dire, quelque chose de connu dans un endroit inconnu ou quelque chose d'inconnu dans un endroit connu. Faire entendre du Chopin dans une mélodie 60s, c'est extrêmement troublant, ça crée tout de suite des affects contradictoires. C'est quelque chose qu'on a probablement déjà entendu, mais dans un contexte qui est tellement différent qu'on ne reconnaît pas de l'où on l'a entendu, et donc ça draine un imaginaire particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Quand dans L'autre amont utilise des manuels de biologie qui détournent dans les champs de Maldoror, ou utilise des moralistes français du XVIIe siècle pour leur faire dire tout le contraire, des fois des choses tout à fait stupéfiantes dans ces deux volumes signés Isidore Ducasse, son vrai nom, Poésie 1 et Poésie 2, c'est ça dont il s'agit. En fait, on se trompe quand on verrait là la paresse d'un mec qui doit tirer à la ligne. Au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement délicat et ça marche très rarement.
Alors, s'il y a vraiment quelque chose qui est difficilement explicable en termes de racines culturelles chez Gainsbourg, c'est précisément son écriture. S'il y a une racine vraiment au jeu des mots avec Gainsbourg, on doit la chercher, je pense, chez Trenet. On doit la chercher aussi, je pense, chez Cole Porter. On doit la chercher, c'est chez ces Américains qui ont le sens du titre. When they begin, the begin. Begin the begin. Il a ce goût-là, il a ce goût du calembour, mais du calembour fin, distingué, très raide, comme ça, avec un peu de froideur, quelque chose d'anglais, oui, dit-on. Mais il y a ça, et...
Un soir, qu'à l'improviste, stack, je frappe à ma porte, toc-toc. Sans réponse, je pousse le loquet. J'écoute gémir le hamac, grincer les ressorts du paddock. J'avance dans le black out et mon Kodak impressionne sur les plaques sensibles de mon cerveau une vision de claque. Je sens mon rythme cardiaque qui passe brusquement à Mach 2. Tic-tac, 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 comme sous un électrochoc. Elle était entre deux macaques du genre festival à Woodstock. Elle semblait une guitare rock à deux jacks. L'un a son trou de but, l'autre a son trou de balle. Et Doc, qui, moi, paranoïaque, demandez donc un peu au vioc qui est portier de nuit au rock, si hôtel, si je débloque. Là, à jamais, sur le bloc, note de ma mémoire, black sur white. Et quoi que je fasse, ça m'en viendra en flashback, bordel, jusqu'à ce que j'en claque.
Et le style, ça compte?
Ah, le style, c'est primordial. Et maintenant, je suis plus dans la recherche des rimes rares. Tout ce qui est en A, G, en R, affectionné, Brassens, ça, je peux pas. Il y a trop de pages dans le dictionnaire, oui, là-dessus.
Mais je sais pas, parce que est-ce que quand les mots viennent comme ça, les images viennent avec ou pas?
Ben oui, je peux prendre un exemple. Il y a des connexions. Merde, qui vient faire chier encore. Ouais. Oui. Eh ben je suis en... Je fais une émission, là. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer. Oui, ce soir. OK ? Ah. Voyons. Alors, par exemple, je me dis, je vais prendre des rimes. Alors, difficile. Difficile, du genre... Herse. Ça m'intéressait. Ça, c'est beau, herse. Alors, je trouve perse, peuperse, herse, exerce, diverse, sesterce, inverse, actarcerce. Et ça donne des British au Niakoué jusqu'aux filles de Perse. J'ai tiré les plus belles filles de la terre. Hélas, l'amour est délétère comme l'éther les peuperse. Il y a donc des mots. C'est le mot qui m'a amené l'idée. Regarde, alors, ici. Après avoir connu des fortunes diverses, blondes, brunettes, redheads, platine châtain clair. En moi-même, je me dis qu'il serait peut-être préférable de faire l'amour en allongeant quelques sesterces. Donc c'est sesterce qui m'a amené les putains.
On est quand même dans l'option olympienne. On est plus proche de Raymond Queneau et de Georges Perec que de Pascal Obispo ou de Serge Lama. Hein. C'est-à-dire quand même, c'est quelqu'un qui a une conception éminemment littéraire de la chanson.
Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille.
Et c'est Seigneur le Boy.
Sous le soleil du rail, les souvenirs m'assaillent. Aïe aïe aïe. Il y a des couillonnes qui parlent d'extradition, mais pour moi, pas question de payer l'addition.
Rock Around the Bunker, ça a à voir avec la grande histoire, plus qu'avec la petite histoire. À chaque fois que sur Rock Around the Bunker, on parle de Yellow Star ou de l'étoile jaune de Gainsbourg, oui, évidemment, à un moment, ça a du sens. Mais ce qui est le plus important, c'est la façon dont la question de l'imagerie nazie n'a pas encore été exorcisée et ne peut pas l'être tant qu'elle n'a pas été, on va dire, réappropriée avec suffisamment de bouffonnerie, de pataphysique et de ridicule. Pour moi, le grand morceau, c'est SS in Uruguay. C'est au moment où on finit par réussir véritablement à faire des chansons complètement débiles sur le nazisme qu'on en a fini. Pas... quand on continue à essayer de l'interpréter de façon sérieuse.
Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles où que j'aille. J'ai ici de la camaille qui m'obéit aux doigts. Aïe. Et à l'œil.
Gainsbourg nous raconte que les nazis sont y compris ridicules. Des salauds, des crapules, des pourritures. Tout le monde le sait. Il y a beaucoup de chansons qu'ils disent. Il y a la chanson engagée qu'ils racontent. Pour ça, il y a Jean Ferrat, il y a Pierre Colombo, il y a Juliette Gréco, il y a d'autres artistes qui peuvent le dire, qui le disent avec force, avec vigueur. Lui, il dit simplement non, ces gens-là sont misérables, ridicules, grotesques, humains. Et c'est un album qui nous dit l'humanité des bourreaux, l'humanité grotesque des bourreaux. Et c'est certainement un des moments les plus désespérés de Gainsbourg quant à la nature humaine. Parce que là, on parle parfois de la misanthropie de Gainsbourg, mais là, on la voit, la misanthropie. Il est en train de nous dire que le mal absolu, ce que nous considérons comme le sommet dans l'échelle du mal sur Terre, c'est des bouffons. C'est un pauvre type avec des moustaches qui est amoureux d'une pimbèche idiote. C'est des types qui font frémir le monde entier, qui sont d'une mesquinerie épouvantable et qui se déguisent en se mettant du rouge à lèvres et des barésilles. Après ça, si on sort de là avec une vision iréniste et dénisque, si on sort de là avec une vision simplement optimiste de l'humanité, c'est qu'on a le cœur bien accroché. Et c'est ça qui est terrible avec Rock Around the Bunker. C'est que c'est à la fois un album... totalement scandaleux, mais pas du tout engagé.
C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un drôle de je m'en foutiste qui dit à tort, à raison, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui se fout de tout et persiste à dire je veux bien, mais au fond, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui n'a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste qui me dit le regard triste, toi je t'aime, les autres ce sont tous des cons.
Sur le fond, et vraiment au fond des choses, la chanson ça représente quoi pour vous?
Un métier et de l'argent. Puisqu'il faut bien...
Un message?
Il faut bien vivre. Un message, certainement pas. Un message, le seul message que je pense puisse être véhiculé par de la musique sont des hymnes patriotiques.
Vous pensez que vous êtes très doué?
Oui. Ben oui, parce que je travaille si rapidement. Faut croire que je suis doué.
Vous aimez Gainsbourg?
Je commence à me supporter. Je m'insupportais. Je pouvais pas me voir en peinture. J'ai fait des autoportraits de moi. Je les ai détruits.
Vous croyez que les gens vous suivent, vraiment, vous aiment?
Il y a des gens qui me détestent profondément, ce qui est quand même assez flatteur. Il faut avoir les moyens d'être détesté.
Quelle image de Gainsbourg ont les gens, à votre avis? En dehors de celle que vous donnez beaucoup de mal à donner.
S'ils ne me connaissent pas, je ne suis vraiment pas un marrant, mais ceux qui ont un contact avec moi savent que je suis un rigolo.
Et le côté provocateur que vous avez longuement peaufiné, ça vous sert à quoi?
Ça me sert à me réveiller tous les matins. Je suis un lymphatique. Alors si je me secoue pas un peu, qu'est-ce qui va rester?
Ne vous déplaise en dansant la charnelle.
À partir de 40-45 ans, il est devenu un héros pour adolescents. Et héros pour adolescents, ça veut dire que ça oblige à transgresser et ça oblige à commettre les fautes, les péchés interdits aux adolescents. C'est-à-dire soit consommer beaucoup de drogue, soit dans son cas consommer de l'alcool. Mais après, il faut expier. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne dans la psyché collective, il faut que le héros meure. Parce que la société ne peut pas accepter que tous les adolescents deviennent des alcooliques ou des drogués. Donc les héros meurent. Et à ce moment-là, ils deviennent des stars. C'est le cas de Janis Joplin, de Jim Morrison, de Gainsbourg, qui lui, évidemment, est assez franchouillard, puisque ses péchés, c'est quand même le pastis 51 et la gitane filtre à l'époque, c'est-à-dire les deux drogues favorites des Français dans les années 80. L'alcool lui était totalement interdit. Donc c'est dans cette souffrance-là, c'est à ça que je pensais. Je me disais, au fond, il représente quelque chose, il joue un personnage, mais ce personnage, il l'est aussi à la ville. Et c'est assez bouleversant sur le plan humain de se rendre compte que cet homme que vous voyez se faire du mal à la télévision, il est aussi en train de se faire du mal dans la vraie vie.
Eh ouais, c'est moi Gainsbourg, on me trouve au hasard. Les nightclubs, les bars, américains, c'est bonheur. Je connais Gainsbourg à ses jeans, à sa barbe de trois nuits, ses cigares et son œil au beurre noir. J't'ai eu, Coco, là.
Gainsbourg, il apparaît dans une chanson qui s'appelle Ecce Homo. Ecce Homo, c'est « Voici l'homme », selon les paroles latines de la Bible en latin. C'est Ponce Pilate qui présente le Christ à la foule et qui dit « Voici, nous l'avons fouetté, nous l'avons couronné d'épines, voici l'homme, Ecce Homo ». Donc il présente un homme de douleur, un Christ de douleur. Et Ecce Homo, c'est une figure omniprésente dans un catholicisme qui, au début des années 80, a un peu délaissé ce type d'image. Ce piétisme des douleurs christiques, l'Ecce Homo, le Sacré-Cœur de Jésus, etc., les sept douleurs, et ainsi de suite. Depuis Vatican II, c'est pas des choses avec lesquelles on pratique beaucoup. Or, Gainsbourg connaît bien cette imagerie. Il la connaît, il l'a pratiquée. Bien sûr, il est juif, mais il a été dans un pensionnat catholique. Et il a été dans un pensionnat catholique à une époque où il fallait absolument être catholique. C'est-à-dire qu'il était dans ce pensionnat catholique et tout le monde savait que les policiers, les miliciens, la police allemande, régulièrement, quand ils avaient des doutes sur un enfant, lui posaient des questions. Lui posaient des questions de catéchisme. On commençait une prière en latin, fallait que l'enfant la finisse. S'il la finissait pas, il était suspect, on l'embarquait, c'était fini pour lui. Donc, une des choses qu'il a le mieux apprises pendant la guerre, c'est les prières, c'est cette imagerie, c'est ce monde de l'Ecce Homo. C'est ce monde de cette piété catholique, extrêmement piétiste, dans lequel il vit dans les années 40. Et dans les années 40, dans ces pensionnats dans lesquels il est planqué, il est sous le nom de Gainsbourg. Et c'est quand même totalement hallucinant que ce nom ressurgisse. Gainsbourg, Gainsbourg, c'est le même nom. Et c'est totalement le trouble psychologique de Gainsbourg avec lui-même et avec la France. Et avec le pays dans lequel il vit, le pays qu'il aime, et on pourrait presque coller terme à terme sa Marseillaise, qui parle de la part martiale, historique, révolutionnaire, dans son premier album reggae, dans son deuxième album reggae, Gainsbourg s'introduit dans la part spirituelle de l'histoire de la France, pour ce qu'il en connaît.
Le plaisir à voir un homme souffrir pour vous, bien sûr, ça existe. Ça existe de tout temps, mais c'est totalement vérifiable chez Elvis Presley, chez Kurt Cobain, comme chez Serge Gainsbourg. Le plaisir de voir un homme se détruire lui-même, comme il l'a fait tout le long des années 80 à la télévision, avec à chaque fois un peu plus d'alcool dans le sang. Et des phrases de moins en moins audibles ou des micros qu'on devait placer de plus en plus près de la bouche pour pouvoir entendre quoi que ce soit. Et puis surtout des comportements qui sont au choix sympathiques ou pathétiques, enfin je sais pas, des choses qui sont pénibles c'est sûr, et qui sont certainement pénibles pour le jeune homme qu'il a été et ce qu'il attendait certainement de sa propre vie. Donc là on peut dire qu'il y a un drame. Enfin c'est extrêmement rare de se retrouver dans des situations où quand bien même on essaye d'exécuter son plan jusqu'au millimètre près, on fait pas honte au jeune homme qu'on a été. Donc du coup, la seule chose qui vous rattrape à un moment ou à un autre, c'est qu'on se dit qu'on pourrait faire rire aussi le jeune homme qu'on a été. Qu'il pourrait nous trouver des circonstances atténuantes. Qu'on serait aussi compréhensible vis-à-vis de nous-mêmes qu'on l'a été jeune pour les destinées des artistes qu'on a aimés. Donc du coup, le masque de l'artiste maudit, c'est le meilleur.
Merci à Marie-Dominique Lelièvre, auteur de Gainsbourg sans filtre, aux éditions Flammarion.
Pour moi, Serge Gainsbourg, c'est quelqu'un qui chantait dans le transistor.
Bertrand Dical, historien de la chanson, auteur de Gainsbourg en 10 leçons chez Fayard.
Gainsbourg est à cette époque-là assez absent de son œuvre.
Paco Mthielman, essayiste.
Les chansons de Gainsbourg, leur but, c'est de réussir à séduire la jeune fille anglaise qui est en chacun de nous.
Patrice Delbourg, complice des papous dans la tête, auteur des Funambules de la Ritournelle aux éditions Écriture.
Il a lu les poètes, il s'en souvient, tant mieux, ça éduque les cons. Chapeau, Serge.
Merci aussi à Alain Goraguer qui fut le premier arrangeur de Serge Gainsbourg et à Manon Houssin. Vous aurez pu entendre dans les archives collectées avec Aude Vassan de l'INA, Serge Gainsbourg répondant aux questions d'André Halimi, de Maurice Hutin, Paul-Louis Mignon et Tommy Franklin, de Jacques Nossari, de Gilles Blévès et Lucien Rioux, de Thomas Sertilange et Gilles Davidas, de Didier Leca, de François Jouffa et Simon Monceau. Mixage Pierre Mine, attaché d'émission Laurence Genepin.
Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi, bon alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré,
black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone. Et bâillonne mon ennui. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit.
Mets-moi la radio un peu plus fort.
Black trombone, monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit.
Soudain, juste avant Monte Carlo, c'est ça le manque de peau. La Cla Jaguar fait une embardée et droit devant la vla qui pique dans le fossé. Et pendant que tous deux agonisaient, la radio a continué de gueuler.
Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
Serge Gainsbourg, de Victor Massé de Lépinay et Gilles Davidas.
Vous pouvez réécouter ou podcaster cette collection Une vie, une œuvre, il y a 50 ans, l'année 1969, sur le site de France Culture. Un grand merci aux documentalistes de la documentation d'actualité pour leur travail de fourmi dans les archives de la presse de l'année 1969, à Martin Delafosse, Thibaut Terragnan et Pascaline Bonnet. Un grand merci pour leur efficacité, leur présence et leur gentillesse. Une vie, une œuvre vous retrouve tout bronzé et surtout reposé, samedi 31 août à 15h pour une nouvelle saison. Belle rentrée à l'écoute de France Culture, mais en attendant, nous retrouvons Cristofono Di Bio pour le temps des écrivains.